VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 17 octobre 2016. Au sommaire ce soir...
L'Union européenne envisage des sanctions contre Kinshasa.
Au Niger, attaque repoussée contre la prison de Koutou-Kale où sont gardés plusieurs djihadistes.
L'opposition burkinabé annonce la formation d'un nouveau regroupement politique.
Pour que le Burkina Faso puisse repartir sur le bon pied, il faudra que tous les enfants de ce pays acceptent de se donner la main.
Ablas Ouedraogo, président de la CODER.
En Irak, le gouvernement lance une offensive avec l'appui des Américains pour chasser les djihadistes de la ville de Mossoul.
Et les sports et l'économie, ce sera tout juste après le journal. L'Union européenne envisage des sanctions contre le régime de Kinshasa. Elle exige des élections le plus rapidement possible en 2017. Éric Manirakiza.
Les chefs de la diplomatie de l'Union européenne ont convenu de suspendre la délivrance de visas aux détenteurs d'un passeport diplomatique ou de service. Des individus responsables de graves violations des droits de l'homme ou qui feraient obstacle à une sortie de crise consensuelle seront également visés par des sanctions. Bruxelles appelle à tous les acteurs de la crise congolaise à respecter la constitution actuelle, dont la limitation des mandats présidentiels. Elle encourage un dialogue politique substantiel, inclusif, impartial et transparent, incluant notamment la conférence épiscopale du Congo. Ce dialogue doit notamment déboucher sur l'organisation d'élections présidentielles et législatives dans le délai le plus court possible, en 2017. Mais le dialogue politique initié par la mouvance présidentielle et une partie de l'opposition entame sa séance plénière. Le mois d'avril 2018 est avancé pour la tenue des élections en RDC. En revanche, l'opposition radicale derrière Étienne Tshisekedi rejette d'avance les conclusions de ce dialogue.
Des représentants de la procureure de la Cour pénale internationale sont depuis dimanche et jusqu'à jeudi en RDC pour réitérer un appel au calme. Les violences des 19 et 20 septembre, les pires qu'ait connues Kinshasa depuis janvier 2015, ont fait au moins 50 morts selon l'ONU. Elles ont eu lieu à l'expiration du délai constitutionnel pour convoquer l'élection présidentielle, 3 mois avant la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre.
Dans le Nord Kivu, en RDC, les enseignants de Butembo ont décrété une grève de 2 jours à la mémoire de 2 enseignants et 2 élèves tués par une roquette. Samedi dernier, des adeptes de la secte Corps du Christ, munis d'armes blanches, se dirigeaient vers la mairie de Butembo. Une patrouille de l'armée les a interceptés. Des heurts ont éclaté et une roquette a été tirée en direction d'une école à proximité. Un militaire a également été tué et plusieurs personnes ont été blessés.
Au Niger, la prison de Koutou-Kale, à 50 km au nord-ouest de Niamey, où sont détenus des terroristes, maliens notamment, a été attaquée ce lundi par des hommes armés qui ont été repoussés, a assuré le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum. Le point avec Nani Talani.
C'est un nombre indéterminé et lourdement armé que les assaillants sont venus vers 4h30 du matin au niveau de la prison de haute sécurité de Koutou-Kale, située à environ 50.
Nous reviendrons sur ce reportage de Nanit Talani dans un moment. Disons que les autorités nigériennes ont indiqué que l'Américain Jeffrey Woodke, enlevé dans l'Ouest, était probablement aux mains des djihadistes du Moujao et se trouverait au Mali. Nanit?
Les premiers éléments indiquent que les assaillants, dont le nombre reste indéterminé, sont arrivés à l'aube sur plusieurs motos. Ils n'ont pas pu pénétrer dans la prison en raison de la fusillade qui a éclaté avec les militaires. D'après le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, l'ennemi a été repoussé, laissant derrière lui des morts portant des ceintures explosives. L'assaillant, dont le corps était encore sur place en fin de matinée, portait une djellaba grise et avait la tête enturbanée. Il portait une ceinture explosive qui était intacte. Une autre ceinture explosive était aussi visible sur une des 3 motos calcinées. La prison civile de Koutou-Kale est considérée comme la plus sûre du pays. Les autorités y gardent les détenus les plus dangereux et de nombreux djihadistes. Les contrôles à l'entrée de Niamey ont été renforcés. Cette attaque ratée survient après l'enlèvement vendredi d'un humanitaire américain qui travaillait depuis 24 ans dans la région de Tawa.
Au Mali, réouverture des écoles à Kidal, fief de l'ex-rébellion, en présence du gouverneur nommé par l'État, une première depuis plus de 2 ans. L'État n'avait pas repris pied dans cette ville depuis des combats en 2014 lors d'une visite du Premier ministre de l'époque, Moussa Marin, qui s'était soldée par une lourde défaite de l'armée face aux rebelles.
Au Burkina Faso, un nouveau regroupement de 8 partis politiques de l'opposition a été mis en place hier à Ouagadougou. Ablassé Ouédraogo est le président de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, CODER.
Le Burkina Faso est un pays qui est en train de sortir de crise. J'allais dire même qui est toujours en crise. Pour que le Burkina Faso puisse repartir sur le bon pied, il faudra que tous les enfants de ce pays acceptent de se donner la main, de regarder dans la même direction et travailler ensemble en confiance. C'est pour cela que nous avons mis en place la CODER. En plus d'être un cadre de dialogue, de concertation et d'action politique, est également un cadre de recherche de la cohésion sociale, de l'unité et de la réconciliation nationale de tous les Burkinabés. En fait, nous voulons tout simplement répondre aux besoins des Burkinabés qui veulent la paix, la sécurité, la démocratie et la réconciliation nationale. C'est donc un cadre de rassemblement, un cadre qui permettra de développer un dialogue inclusif. C'est pour cela que nous avons lancé un appel au président du Faso pour qu'il accepte de rassembler tous les Burkinabés autour de lui et de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout.
Ablassé Ouédraogo.
La Guinée équatoriale s'est dite profondément offensée par la manière injuste et insultante dont elle est traitée en France. C'est ce qu'a déclaré son représentant devant la Cour internationale de justice qui examinait une demande de suspension des poursuites judiciaires lancées en France contre le fils du président équato-guinéen. Les audiences se tiennent à La Haye, à une semaine du procès devant le tribunal correctionnel de Paris où Théodorin Obiang a été assigné à comparaître le 24 octobre pour enrichissement illicite.
La France a appelé ce lundi toutes les forces politiques libyennes à s'unir sous la bannière du gouvernement de Tripoli, reconnu par la communauté internationale. Vendredi, le chef de l'ex-gouvernement Khalifa Gouel a affirmé que son gouvernement de salut national avait pris le contrôle du bâtiment du Conseil d'État libyen. Il a appelé ses ministres à reprendre leur poste et à considérer comme suspendus de leurs fonctions les responsables nommés par le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, la bataille de Mossoul a commencé. Un large éventail de forces irakiennes et internationales est engagé dans cette offensive pour la reprise de la deuxième ville du pays, dernier grand fief du groupe État islamique. Le point avec Salwa Jafari.
Dès les premières heures de la matinée, des colonnes de véhicules blindés chargés de soldats sont parties vers les lignes de front. La bataille de Mossoul s'annonce ardue.
Aujourd'hui, nous allons nous battre jusqu'à la mort.
Les soldats irakiens, les Peshmerga, les forces iraniennes, les forces turques sont mobilisées, sans oublier la coalition internationale conduite par les États-Unis. Ashton Carter, le patron du Pentagone, est sur place. Situé dans le nord de l'Irak et peuplé majoritairement de musulmans sunnites, Mossoul était tombé entre les mains du groupe État islamique en juin 2014. C'est de là que son leader Abou Bakr al-Baghdadi avait publiquement proclamé son califat. La bataille de Mossoul sera probablement après de longues haleines. L'ONU dit craindre un désastre humanitaire pour les quelques 1,5 million d'habitants dans la ville.
Guerre en Syrie, les États-Unis envisagent de nouvelles sanctions dans les prochaines semaines contre le président Bachar el-Assad et ses alliés. Cette décision reflète la frustration de Washington face à l'escalade de la violence et aux difficultés d'aboutir à un cessez-le-feu durable dans le conflit. À Londres, John Kerry et ses partenaires français, britanniques et allemands ont convenu hier d'augmenter la pression sur le régime syrien et la Russie pour que cessent les raids aériens à Alep, la deuxième ville du pays. Aujourd'hui, l'Union européenne a averti que ces bombardements pourraient constituer des crimes de guerre. L'assaut sur Alep a déjà fait plus de 430 morts.
Deux astronautes chinois ont entrepris ce lundi la plus longue et ambitieuse mission spatiale habitée dans l'histoire de la Chine. Jing Epeng et Shen Dong sont montés dans l'espace ce matin à l'aube à bord du vaisseau Shenzhou 11. Après deux jours en orbite, un rendez-vous est prévu avec le Tiangong 2 ou Palais Céleste 2, un laboratoire spatial qui a été placé en orbite le mois dernier. Ils y conduiront des expériences scientifiques pendant 30 jours en prévision d'une station spatiale permanente que la Chine espère avoir en place en 2022.
Ici aux États-Unis, les deux principaux candidats à la présidence se préparent pour leur troisième et dernier débat télévisé mercredi soir dans le Nevada. Donald Trump continuait ce lundi à dénoncer de façon préventive une élection truquée tout en se défendant contre les accusations d'agression sexuelle. Hillary Clinton prend le large dans les sondages. Nous y reviendrons dans notre partie magazine.
Et les 28 pays membres de l'Union européenne se réunissent au Luxembourg pour tenter de concrétiser les mesures prises à Paris lors de la dernière conférence sur le climat. À l'ordre du jour, des échanges sur les moyens de réduire les émissions des gaz à effet de serre d'ici à l'année 2030.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs ce soir avec Nanit Talani.
L'Union européenne va doubler son aide financière à la Tunisie en 2017 à 300 millions d'euros afin de soutenir les réformes en cours dans le pays, selon un accord du Conseil de l'Union européenne annoncé ce lundi. Dans ce pays, en proie à un chômage endémique sur fond de croissance atone, les avancées politiques ne pourront être inscrites dans la durée que si elles sont accompagnées par des avancées économiques de même envergure, estime le Conseil. Par ailleurs, il appelle le gouvernement de Tunis à procéder rapidement à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les investissements en vue d'améliorer l'environnement des affaires. Le Burkina Faso vient d'inaugurer sa première usine de lampes solaires avec l'ambition de transformer une ressource naturelle dont il jouit en abondance, les rayons solaires, en électricité, une énergie qui lui fait cruellement défaut. Le marché des lampes solaires est très porteur dans ce pays qui a le coût de kilowatt-heure le plus cher d'Afrique et où l'électricité est une denrée rare, accessible à seulement 19% des 19 millions d'habitants. Le développement des énergies renouvelables et surtout du solaire devrait sortir le pays de sa carence énergétique. L'usine La Gazelle, la productrice, compte produire chaque semaine 1 500 lampes solaires et compte en sortir d'ici à 2020 1 million. Enfin, la Côte d'Ivoire vient de lancer un nouvel emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA, soit 152 millions d'euros, baptisé TPCI 2016-2026. Cette levée de fonds est dotée d'une maturité de 10 ans pour un taux d'intérêt de 5,9%. Elle servira à refinancer les titres émis antérieurement et permettra également de financer les investissements prévus au budget 2016. La période de souscription est fixée à un mois et s'écoulera jusqu'au 10 novembre.
Là, c'est l'actualité sportive. Salut Timothée Donangmaï.
Bonsoir Gabi.
Football européen avec un coup d'œil sur les matchs de la Ligue des Champions, mardi.
Eh oui Gabi, le groupe E verra le choc entre CSKA Moscou et Monaco, leader du groupe avec 4 points, ainsi que la rencontre Bayer Leverkusen-Tottenham. Dans le groupe F, le Real Madrid reçoit Legia Varsovie avec la possibilité de se démarquer de Dortmund avec qui il est à égalité 4 points. Dortmund qui sera en déplacement au Portugal contre le Sporting. Et dans le groupe G, Leicester, leader avec 6 points, reçoit FC Copenhague tandis que Bruges joue contre le FC Porto. Le groupe H verra à l'œuvre Dynamo Zagreb contre Séville et Lyon contre la Juventus.
Parlons du Mondial 2018 en Russie. Nouvelle décision de la FIFA concernant les stades.
Et oui, dans une mise à jour publiée ce lundi, la Fédération internationale dit que dans le but d'assurer la plus haute qualité possible des aires de jeu, les stades prévus pour le Mondial 2018 ne seront pas utilisés pour autre chose 2 mois avant le début de la compétition. Toute exception devra être préalablement approuvée, a souligné la FIFA. Cette décision, Gabi, s'explique à partir de l'expérience de surutilisation des aires de jeu avant le Mondial brésilien, mais aussi le mauvais état du stade Vélodrome en France, durant l'Euro 2016.
En quelques secondes, basket professionnel, la NBA commence le 25 octobre.
Et oui, la saison se prépare activement. Hier soir, un match de préparation donc. Oklahoma City a défait Minnesota 112 à 94 grâce à 26 points de Russell Westbrook. Victoire d'Atlanta contre Orlando 105 à 98 et Denver s'est imposé 106 à 97 face à Portland.
Merci Timothée Dunangmaï.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Gaby Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Niamey.
Oui, au Niger, où une attaque sur une prison a été repoussée ce matin par les forces de l'ordre. En effet, des assaillants venus probablement du nord du Mali ont tenté de prendre le contrôle de la prison de haute sécurité de Koutoukalé, située à environ 50 km de la capitale Niamey. Les gardes ont tué l'un des assaillants, mais les autres ont pris la fuite vers la frontière malienne. Ils sont recherchés, assurent les autorités nigériennes. Plus de détails avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
C'est un nombre indéterminé et lourdement armé que les assaillants sont venus vers 4h30 du matin au niveau de la prison de haute sécurité de Koutoukalé, située à environ 50 km de Niamey dans la région de Tillabéri. De violents combats s'engagent alors entre eux et les éléments de la garde nationale qui surveillent la dite prison. Ces derniers prennent le dessus et les assaillants s'enfuient vers la frontière malienne. Un d'entre eux a pu cependant être abattu. Cheloutane Mohamed est le gouverneur de la région de Tillabéri.
La situation elle est actuellement sous contrôle. Ils ont été mis en déroute. Les poursuites sont engagées. Donc nous pensons en tout cas d'un moment à l'autre mettre la main sur eux parce que toutes les dispositions sont mises en place.
Non, le bilan c'est juste le mort que vous avez vu parmi les assaillants et puis quelques blessés légers. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont à moto. Nous ne connaissons pas le nombre. Ils n'ont pas eu accès à la prison. Vous avez vu la puissance de feu. Vous avez vu tous les impacts sur les portails de la maison d'arrêt. Ils ont vraiment merci. En tout cas, nos forces ont tenu. Et ils les ont mis en déroute. En dehors de deux blessés légers, vraiment, on déplore rien.
Des recherches sont en cours pour rattraper les 10 assaillants dont l'identité n'est pas encore connue. Un témoin rencontré sur place a pu tout de même voir qu'ils sont enturbanés.
Ils sont enturbanés, mais ils sont venus vers Tillabéri. Et ils sont venus à 4h du matin. Et ils sont venus dans leur véhicule en éteignant le phare et sur des motos. Je n'ai pas une idée sur le nombre. Mais c'est que vraiment l'attaque a été violente. C'est tout ce que je peux vous dire.
Le dispositif sécuritaire est renforcé aux alentours de la prison de haute sécurité de Koutoukalé qui accueille plusieurs terroristes arrêtés aussi bien dans la guerre contre Boko Haram que dans celle contre les groupes djihadistes du Nord Mali. Abdelrazak Idrissa, de retour de Koutoukalé pour VOA Afrique.
Dans moins d'un mois, l'Amérique élit un nouveau président. Quelle vision du monde pour les deux principaux candidats, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump? Comment la grande communauté d'immigrants des États-Unis perçoit-elle ces deux candidats? Ne manquez pas le troisième et dernier débat présidentiel, immédiatement suivi d'une exclusivité VOA. Le Monde regarde. Perspective des immigrants aux États-Unis. En direct sur voafrique.com, ce jeudi, à partir de 1h TU, Le Monde regarde, voafrique.com.
Au Bénin, bras de fer entre le gouvernement et les étudiants. Au cœur de cette brouille, une décision prise par l'équipe du président Patrice Talon pour essayer de freiner la violence dans les mouvements d'humeur des étudiants. Explication de Ginette Fleur-Adandé, notre correspondante à Cotonou.
À l'université d'Abomey-Calavi, ce n'est plus la grande affluence d'antan. Les étudiants ruminent encore la décision du gouvernement portant interdiction des activités des associations fêtières. Si la plupart refusent de se prononcer, au risque d'essuyer des représailles, les plus téméraires pensent qu'il faut tenir bon. C'est le cas de cet étudiant, membre de la branche la plus communiste des associations existant sur le campus. Il se fait appeler rebelle ou soldat par ses pairs.
Qu'on soit au sein d'une organisation étudiantine qui défend l'intérêt des étudiants et que le président de la République décide d'empêcher ces gens-là de réclamer les droits. C'est un peu arbitraire.
Au nombre des raisons qui sous-tendent la suspension qui plane sur ces associations étudiantines, le banditisme et la violence des mouvements de revendication, pure invention selon cet étudiant.
Le banditisme dont on parle, ils n'ont qu'à aller dans les villes pour parler de ces banditismes. Moi, je n'ai pas encore rencontré ce cas de banditisme dans l'université.
Mais dans le lot, il y a quand même ceux qui pensent que le gouvernement est dans son droit de siffler la fin de la récréation. Et pour cause.
Il y a connu trop de problèmes, si bien que moi aussi, à l'ENAM, jusqu'à présent, on n'a pas encore fini l'année. Et bientôt, avoir même la tendance, avant que nous ne finissions l'année, on va même entrer dans 2017. Et ce n'est pas trop bien. Si cela continuait et que chaque année, on connaissait de mouvements comme ça, peut-être qu'on va finir par tout gâcher.
Pendant que le gouvernement joue la carte du jusqu'au boutisme, les étudiants ne comptent pas se laisser faire. En tout cas, les jours à venir pourront situer les uns et les autres sur cette affaire qu'il convient désormais d'appeler gouvernement contre les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Éthiopie, le gouvernement a renforcé l'état d'urgence décrété le 9 octobre, imposant notamment de sévères restrictions pour les déplacements dans le pays et interdisant la consultation de certains médias d'opposition basés à l'étranger. Même les diplomates étrangers basés en Éthiopie ont interdiction de se déplacer au-delà d'un périmètre de 40 km autour de la capitale, sauf autorisation spéciale. Pour une analyse, Claire Morin-Gibour a joint à Addis Abeba un expert de la Corne de l'Afrique qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Le gouvernement est en train de perdre peu à peu le contrôle du pays. Donc ça se durcit, ça se replie, ça se concrétise, mais ils sont en face de quelque chose d'énorme. Et pas du tout d'ailleurs parce que c'est organisé, c'est-à-dire la possibilité de survie du gouvernement à l'heure actuelle, c'est justement parce que le mouvement tant Oromo que Amara n'est pas organisé. Mais le danger, c'est qu'également, c'est presque impossible de le décapiter parce qu'il n'a pas de tête. C'est pas une organisation, justement.
Est-ce qu'on peut craindre des mesures répressives ?
Bien sûr, on ne peut pas les craindre, on peut être sûr qu'elles auront lieu.
À moyen ou long terme, que pensez-vous qu'il va arriver ?
Le gouvernement pourrait bien passer l'arme à gauche. Ça va être très dur pour eux de survivre. C'est un gouvernement qui a une base ethnique étroite et qui représente à peu près 6% de la population. Et les gens qui se soulèvent contre lui représentent 60% de la population. Donc c'est pas difficile, hein. Il y aura un très gros problème pour le futur.
Est-ce que pour vous, au jour d'aujourd'hui, comme on peut le lire dans la presse, est-ce que le gouvernement éthiopien fait preuve de paranoïa ?
Oui, mais ils ont raison. Si je suis paranoïaque et que quelqu'un me tire un coup de revolver quand je sors de chez moi, je peux dire, regardez, avais-je raison ou pas ? Et effectivement, ils sont dans une situation extrêmement dangereuse. Alors là où la paranoïa n'est pas justifiée, c'est quand ils sont persuadés, ou enfin où ils font semblant d'être persuadés, que tout ça est dû aux Arabes. C'est un complot arabe, on dit les Égyptiens, les Émiratis, les Saoudiens, etc. Tous ces troubles ne sont pas dus à un complot des pays arabes.
Beaucoup de médias d'opposition basés à l'étranger, est-ce que vous pensez qu'ils jouent leur rôle ?
Il n'y a pas vraiment de presse éthiopienne sérieuse, ni pro ni anti-gouvernement. C'est une espèce d'encéphalogramme plat. Il n'y a pas de presse en Éthiopie, et à l'étranger non plus. Il y a des blogs, il y a des choses comme ça, mais ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas l'équivalent de ce qu'on peut avoir par exemple, attaquerait le gouvernement à partir d'un point de vue organisationnel, etc. Ça n'existe pas.
C'était un expert de la Corne de l'Afrique qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité.
«
présidentielle américaine 2016, la candidate démocrate Hillary Clinton prend le large dans les sondages pour le scrutin du 8 novembre. Son rival Donald Trump, lui, persiste et signe. Le candidat républicain a continué aujourd'hui à dénoncer ce qu'il appelle une élection truquée. Jacques Aristide.
Comme pour ne pas changer, c'est sur Twitter que Donald Trump est revenu à la charge ce lundi en écrivant
« Bien sûr que de vastes fraudes électorales se produisent avant le scrutin et le jour de l'élection. Pourquoi les responsables républicains le nient-ils? Quelle naïveté !»
Jacques, le candidat républicain à la Maison-Blanche, a-t-il fourni des précisions concernant ces accusations?
Jusqu'à présent, il demeure flou, se contentant de faire allusion à de possibles fraudes. Par exemple, il a encouragé le 1er octobre ses partisans à aller surveiller les bureaux dans certaines zones.
On ne peut pas perdre une élection à cause de vous savez quoi.
Ce langage codé pourrait viser les quartiers africains-américains qui votent majoritairement pour le Parti démocrate. Certains sous-entendent que dans ces bureaux de vote, des tricheries pourraient avoir lieu, par exemple en supprimant des voix républicaines ou en faisant voter des gens qui n'en auraient pas le droit. Le paradoxe est que depuis plusieurs années, à l'initiative de gouverneurs républicains, plusieurs États ont durci les conditions de vote. Alors qu'en 2000, 14 États seulement exigeaient une preuve d'identité pour voter, ils sont aujourd'hui une trentaine à le faire. Ces restrictions sont dénoncées par les démocrates qui estiment qu'elles frappent démesurément les minorités pauvres qui n'ont pas forcément de permis de conduire. La pièce d'identité la plus commune aux États-Unis et qui est souvent payante. Une fraude massive semble difficile car le système électoral américain est décentralisé. Il est du ressort de chacun des 50 États où les républicains détiennent d'ailleurs la majorité du pouvoir. En outre, depuis 10 ans, la tendance est au retour à des bulletins en papier par rapport au vote purement électronique.
Également dans le collimateur de Donald Trump figurent les médias, Jacques.
Oui, il estime que l'élection est truquée par les médias qui ignoreraient volontairement les affaires liées à Hillary Clinton pour concentrer leur couverture sur les accusations sexuelles contre le candidat républicain, des accusations qu'il rejette. Son colistier Mike Pence croit que les médias nationaux essayaient constamment de changer de sujet et ignorent volontairement la corruption et les trafics d'influence des Clinton.
Et Jacques, l'événement phare cette semaine est évidemment le troisième et dernier débat télévisé entre les deux candidats.
Oui, Donald Trump retrouvera Hillary Clinton après-demain à Las Vegas. Aujourd'hui, la démocrate restait cloîtrée chez elle, près de New York, pour se préparer. Elle devra sans doute se tenir prête à répondre à la publication par Wikileaks de milliers de messages à pirater du compte Gmail du président de son équipe de campagne, John Podesta, qui révèle les tergiversations et machinations politiques de la candidate. Elle recueillait néanmoins 45,4% des intentions de vote, en moyenne contre 39,1% pour Donald Trump, d'après la moyenne du site Real Clear Politics. Il y a 4 ans, jour pour jour, Barack Obama n'avait que 0,4 points d'avance sur le républicain Mitt Romney.
Merci Jacques Aristide.
Dans moins d'un mois, l'Amérique élit un nouveau président. Quelle vision du monde pour les deux principaux candidats, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump? Comment la grande communauté d'immigrants des États-Unis perçoit-elle ces deux candidats? Ne manquez pas le troisième et dernier débat présidentiel, immédiatement suivi d'une exclusivité VOA, Le Monde Regarde, perspective des immigrants aux États-Unis. En direct sur voafrique.com, ce jeudi, à partir de 1h TU, Le Monde Regarde, voafrique.com.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Lionel Gaïman était à la mise en onde. À la présentation, c'était Nathalie Barge et Gabi Dorsil.
Grande. gentil. Merci à notre ami McLean. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Vous êtes maintenant près de 2 millions. On maintient la conversation. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.